toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 mai 2025. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission quotidienne d'actualité locale et associative. Vous pouvez nous retrouver sur le site radiocampusamiens.fr, sur le 87.7 FM et aussi disponible en DAB+. Aujourd'hui, je suis avec Aline à la technique. Salut Aline.
Salut.
Avec Malo. Salut Malo.
Salut Sonia.
Tu vas nous lire une chronique. De quoi est-ce que tu vas nous parler ?
Je vais parler de cinéma et du film Le Cuirassé Potemkin qui fête ses 100 ans cette année.
Ok, on s'écoute ça à la fin. Et Emmanuel, tu vas aussi nous faire une chronique. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et de quoi vas-tu nous parler dans ta chronique ?
Exceptionnellement, on va parler d'un festival dans l'Isère et malheureusement, c'est pas avec des bonnes nouvelles.
Bon, on écoute ça à la fin. Et on commence tout de suite avec l'interview du jour. Dans le cadre du dispositif Cité éducative, les élèves de l'école de la paix ont interviewé Mathilde qui est en service civique auprès de l'établissement.
Bonjour, nous sommes la classe de CM1 de l'école La Paix. Aujourd'hui, nous allons poser des questions à Mathilde. Elle travaille chez nous depuis plusieurs mois.
Bonjour Mathilde, qu'est-ce que tu fais à l'école de La Paix ?
Alors, à l'école La Paix, je fais plusieurs missions. Donc, par exemple, je peux venir dans les classes pour aider les maîtresses et vous aider également. J'aide également la directrice quand elle a besoin de moi. Et puis après, je gère tout ce qui est le téléphone et le secrétariat.
Pourquoi as-tu choisi de travailler ici ?
Alors, j'ai choisi de travailler ici, c'est parce que la directrice a su bien me présenter l'école et me donner envie de venir ici.
Et c'est que ce service civique te plaît ?
Franchement, oui, il me plaît beaucoup. Et puis, c'est en partie grâce à vous, car vous êtes de superbes enfants. Alors, un service civique, c'est une mission qu'on peut effectuer qui dure entre 6 et 12 mois. Et donc, on peut l'effectuer dans plusieurs domaines. Donc, ça peut être dans une entreprise, à Radio Campus, ou ça peut aussi être dans une école. Et donc, moi, je suis là pour un an. Jusqu'à la fin de l'année, pour vous accompagner, vous, les maîtresses et la directrice.
Qu'est-ce que tu préfères à l'école La Paix ?
C'est difficile de choisir, mais j'aime beaucoup l'ambiance qui est ici, que ce soit grâce à vous ou grâce aux maîtresses.
Qu'est-ce que tu souhaites faire après ton service civique chez nous ?
Eh bien, je souhaite continuer mes études, donc ce serait notamment dans le journalisme, donc à voir ce que l'avenir me réserve.
Après ton travail à l'école de la paix, lequel ton prochain objectif pour devenir journaliste ?
Alors, comme je l'ai dit dans la dernière question, c'était d'entrer dans une école afin de pouvoir me former et devenir journaliste.
Est-ce que... que tu vas continuer de travailler à l'école de la paix ?
Alors, je travaille ici jusqu'à la fin de l'année avec vous. Et après, l'année prochaine, je ne serai plus là.
Comment tu as connu Radio Campus Amiens ?
J'ai connu Radio Campus Amiens parce que j'ai une copine qui a fait son service civique là-bas. Et donc, elle m'en a parlé et c'est comme ça que j'ai connu.
Est-ce que tu te sens bien à Radio Campus ?
Alors oui, je passe de très bons moments grâce à l'équipe. C'est des moments intéressants et très enrichissants où ils m'apprennent plein de choses, comme par exemple faire des interviews comme vous.
Qu'est-ce que tu fais à Radio Campus Amiens ?
Alors, je fais plusieurs choses. Donc, si vous vous rappelez de la visite que vous avez eue vendredi, Thomas, il vous a expliqué les différentes choses qu'on pouvait faire. Donc, je peux faire des brèves, donc les actualités flash. Je peux également rédiger des chroniques et je peux aussi faire des animations d'émissions ou encore des interviews.
Combien de temps faut-il pour réaliser une émission de radio ?
Alors, le temps exact, je l'aurai pas, mais je dirais quelques heures, le temps de faire le point, de savoir qui fait quoi dans quel, enfin qui fait quelle tâche, pourquoi, enfin quel, après il faut, donc le temps, en fait il y a le temps de préparation, puis après, enfin donc le de préparation dans le sens où il faut préparer l'émission, donc la planifier, savoir ce qu'on va faire dedans, mais il y a aussi le temps d'écriture, donc ça c'est quelque chose qui prend un, peut-être un peu plus de temps, souvent bah, notamment sur les interviews, parce qu'il faut se renseigner, il faut trouver les questions adaptées au public qu'on aura en face de soi, donc oui, je dirais quelques heures.
Sur quelle autre radio aimerais-tu travailler ?
C'est une très bonne question. Eh bien, par exemple, on a une radio aussi à Amiens, ça s'appelle Ici Picardie. J'y suis déjà allée une fois et c'est vrai que ça avait l'air très sympa. Il y avait l'air d'avoir également une bonne ambiance et un bon esprit d'équipe et de travail, donc ça pourrait être sympathique. Eh bien, parce que tout simplement bah, pour la proximité. Et également parce que, bah, encore une fois, j'ai pu rencontrer les équipes et que c'était, ils étaient très gentils.
Pourquoi veux-tu devenir journaliste ?
Alors, mon oncle est journaliste. Et donc, c'est un peu lui qui m'a donné l'envie. Quand j'étais petite, bah, je le voyais... J'ai pu le voir travailler, j'ai pu le voir partir parce que bah, il devait aller faire des reportages, etc. Et j'avoue que bah, ça m'a inspirée et que je me suis dit que j'avais envie de faire pareil.
Qu'est-ce qu'il te plaît dans le travail de journaliste ?
Alors, j'aime bien parce que je pense que j'ai toujours aimé chercher à comprendre ce qui se passait autour de moi, dans le monde, les événements. Et en fait, je pense que j'ai envie de faire comprendre aux gens ce qui se passe et de leur dire, voilà, il se passe ça aujourd'hui et vous devez savoir ça parce que c'est important.
Quelles sont tes inspirations dans le milieu du journaliste ?
Alors, je peux reciter mon oncle, celui qui m'a donné envie, mais j'ai également, par exemple, vous devez le connaître, Hugo Décrypte. Je trouve son format très intéressant. Après, il y a un autre journaliste comme Fabrice Arfi, c'est un journaliste d'investigation que j'ai beaucoup aimé suivre parce que j'aime bien son travail. Donc voilà.
Quel type de poste aimerais-tu occuper ?
Alors, il y avait une fois j'étais venue dans votre classe, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé un petit peu du métier, je vous avais expliqué qu'il y avait plusieurs catégories et donc du coup, moi, j'aimerais bien me spécialiser dans le journalisme d'investigation parce que ça demande beaucoup de travail, il faut enquêter, ça peut durer un long moment. Et j'ai toujours aimé ce côté enquête, j'ai beaucoup de curiosité, et donc je pense que c'est ce qui me conviendrait le mieux.
Tu vas faire ça comme Hugo Décrypte ou...
C'est un format auquel j'ai pas encore réfléchi, j'avoue. Après, c'est vrai que ce serait intéressant de faire ce format comme Hugo Décrypte, pour plusieurs raisons, est-ce que je l'ai dit. Parce que c'est la manière de vous intéresser, vous, les jeunes, maintenant au journalisme plutôt que d'avoir quelque chose sur papier, et donc ce serait intéressant d'utiliser ce format là parce que ça pourrait permettre de vous intéresser, donc effectivement ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire.
Est-ce que tu préfères la presse écrite, la télévision ou la radio, pourquoi?
Alors je me suis toujours dit que je me tournerais vers la presse écrite parce que j'ai toujours été très timide et que donc forcément ce serait plus simple pour moi. Mais depuis quelques années, j'ai découvert le monde de la radio et je suis moins timide. Alors peut-être par exemple dans la radio, parce que c'est un univers que j'ai découvert et qui me plaît énormément.
Qu'est-ce qu'il te reste à faire pour devenir journaliste ?
Alors, il me reste à finir mes études. Donc, je dois passer encore 2 ans à l'école et après, j'obtiendrai mon diplôme.
Est-ce que tu vas devoir faire un stage pour devenir journaliste ou aimerais-tu
faire ce stage ?
Alors oui, je vais devoir effectuer plusieurs stages, ça fait partie de la formation. Effectivement, c'est plus simple de s'entraîner quand... Enfin, dans la... C'est plus simple de s'entraîner dans un journal qu'en classe. Donc effectivement, je vais devoir faire des stages. Après, où est-ce que j'aimerais en faire ? Je dirais peut-être pour la radio, soit à Radio Campus ou à Ici Picardie. Et pour la presse écrite, je me verrais bien à Ouest France. À Ouest France. C'est dans tout le... C'est la région ouest de la France.
Est-ce que tu préférais avoir un poste fixe ou alors tu préférais voyager ?
Alors, je pense que j'aimerais bien voyager. Ça peut être très intéressant et enrichissant. D'autant plus que si je deviens journaliste d'investigation... je vais avoir besoin de bouger selon les besoins de l'enquête. Donc effectivement, j'aimerais bien voyager.
Pourquoi aimerais-tu travailler à BFM TV ? Pourquoi ?
Pas spécialement. J'avoue que... parce que déjà, c'est une chaîne d'info continue. Donc les informations tournent toute la journée. Et c'est pas le travail que je souhaite faire, mais également parce que ils ont une ligne éditoriale qui n'est pas celle que je souhaite suivre. Voilà. La ligne éditoriale d'un journal, c'est ce qui va permettre de déterminer le type de sujet qu'ils vont vouloir traiter.
En dehors de l'école La Paix, et quand tu n'es pas à Radio Campus Amiens, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ?
Alors, je fais plusieurs choses. Alors, j'aime beaucoup la lecture, donc je lis. Je fais également de la danse, donc ça occupe pas mal de mon temps. Et puis après, je fais plusieurs activités, des activités manuelles par exemple. J'aime beaucoup en faire, voilà.
Pour terminer cette interview, aurais-tu un message à nous faire passer ?
J'aurais un message, effectivement, c'est possible. Je voulais vous exprimer ma reconnaissance pour cette année parce que vous avez été très agréable et j'ai passé une très bonne année parmi vous et je vous en suis très reconnaissante.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, vous venez d'écouter « Fais battre ton tambour » d'Émilie Loiseau. On termine l'émission avec les chroniques, on commence par Malo, on t'écoute pour ta chronique.
Ça y est, tout doucement, on commence à pouvoir fêter les centenaires de certains films cultes, même s'il faudra encore attendre quelques temps pour que Titanic souffle ses 100 bougies. En 1925 donc, sortait « Le cuirassé Potemkin », un film soviétique muet de Sergei Eisenstein. Les films parlants ayant complètement éclipsé leurs prédécesseurs, vous en avez sûrement jamais entendu parler, mais le cuirassé Potemkin est un pilier du cinéma, si bien qu'il avait été élu meilleur film de tous les temps à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Mais alors, pourquoi ? Déjà, son sujet. Comme énormément d'œuvres soviétiques de l'époque, le cuirassé Potemkin est un outil de propagande. Pour les 20 ans de la révolution de 1905, l'État commande un film à Sergei Eisenstein, qui vient de sortir le tout aussi historique « La grève » un an auparavant. Au départ, le réalisateur avait pour idée de peindre une grande fresque révolutionnaire, mais au final, il s'est concentré sur un seul épisode symbolique de cette période, la mutinerie du cuirassé Potemkin. En 1905, au large de la ville d'Odessa, les marins de ce navire vont se soulever contre leur hiérarchie, refusant de manger la viande avariée qui leur est donnée. La solidarité entre les marins et leur colère vont entraîner une escalade de la violence qui va se terminer en affrontement meurtrier dans lequel les marins vont prendre les rênes du bateau. Arrivés sur le port d'Odessa, les mutins embrigadent la population locale pour continuer la révolution qu'ils sont en train de mener contre l'Empire. Finalement, la répression de cette révolte fera près de 6000 morts, notamment lors d'un affrontement sur les escaliers menant au port, le port à la ville, qui sera aussi le décor de la scène la plus célèbre du film. Parce que oui, c'est aussi pour ça que le cuirassé Potemkin est resté dans la postérité. C'est pour cette scène culte de l'escalier. Même si Eisenstein s'est un petit peu éloigné de la réalité, la dramaturgie de cette séquence l'a ancré dans l'histoire du cinéma, notamment avec ces images du berceau qui tombe lentement dans l'escalier avec une tension folle et le visage terrifiant de cette mère incapable d'agir. Cette scène sera notamment reprise par des cinéastes comme Terry Gilliam ou Brian De Palma et va grandement influencer la façon de mettre en scène le suspense et surtout de le monter. Puisqu'enfin, effectivement, ce film est techniquement un chef-d'œuvre et semble très en avance sur son temps. Eisenstein a beaucoup travaillé sur le montage pour ajouter un certain volume tragique aux scènes d'affrontement et notamment cette fameuse scène de l'escalier. La concordance entre l'image et le son et surtout la musique est particulièrement soignée. Et enfin, la mise en scène offre des plans très impactants, des gros plans qui restent longtemps dans la tête du spectateur après le visionnage, je parle en connaissance de cause. Ce film est aussi représentatif de l'élan artistique soviétique de l'époque. Même si la plupart des films, comme je l'ai dit, sont issus de commandes de l'État, les réalisateurs sont finalement plutôt libres artistiquement et plusieurs chefs-d'œuvre sont nés de cette époque. Parmi eux, donc, le cuirassé Potemkin de Sergueï Eisenstein, qui fête ses 100 ans cette année et qui est tombé dans le domaine public de nombreux pays depuis un moment. Si vous voulez profiter d'un instant cultissime du cinéma, c'est donc disponible sur YouTube.
Merci Malo. Et Emmanuel, on t'écoute tout de suite pour ta chronique.
Merci Sonia. Une fois n'est pas coutume, Radio Campus Amiens a décidé de se faire l'écho d'une lettre ouverte que nous avons signée avec de nombreux acteurs culturels et associatifs. L'association Mixar organise pour la 8e édition le festival Bien le Bourgeon, qui se tiendra pour la première fois dans le village de Moyenne Montagne de Grès-en-Vercors en Isère du 29 au 31 mai 2025. Bien le Bourgeon est un festival de musiques actuelles qui porte également une forte ambition en matière de transition écologique, sociale et d'adaptation touristique à travers des spectacles, ateliers, tables rondes et autres formes d'expression artistique et citoyenne. Ce festival est soutenu depuis de nombreuses années par le département de l'Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Centre national de la musique. Cette année, il bénéficie également du soutien de la ville de Grès-en-Vercors et de la communauté de communes de Trièves, ainsi que de la SACEM. Or, l'association Mixar a récemment appris que lors de la commission permanente du 25 avril au Conseil départemental de l'Isère, en dernière minute, un amendement a été soumis au vote afin de retirer la subvention pour le festival, mettant ainsi a priori en cause la participation de l'artiste Médine au sein de la programmation du festival en question. Pour tenter d'en savoir plus, les organisateurs ont sollicité un rendez-vous auprès du président du conseil départemental, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont reçu ni notification du retrait de la subvention, ni aucun rendez-vous ou proposition d'échange, même téléphonique. Nous souhaitons rappeler ici que cet artiste n'a jamais été condamné. Cette décision inattendue, et que nous ne comprenons pas, nous non plus, nous interroge profondément sur le rôle d'une collectivité. Est-ce à elle de s'immiscer dans une programmation artistique ? Cette décision constitue en effet une remise en cause des libertés de création et de programmation artistique, pourtant protégées par la loi relative à la liberté de création qui a été adoptée en 2016. Et par les droits culturels reconnus dans la République française. Elle entre également en contradiction directe avec l'objectif annoncé par le ministère de la Culture dans son plan pour la liberté de création annoncé en décembre dernier par Rachida Dati, qui vise le renforcement de la protection des dits droits face à la recrudescence des atteintes qui se multiplient pour de nombreux festivals, salles de spectacle, artistes. Dans un contexte de montée des discriminations et du racisme, remettre en cause le soutien à un festival en raison de la venue d'un artiste engagé sur ces enjeux soulève de légitimes interrogations. Cette situation n'est malheureusement pas un épisode isolé. Nous remarquons depuis quelques années de nombreuses pressions politiques et médiatiques pour interdire des programmations, des artistes, des formes d'expression et d'opinion. Pour nous, acteurs culturels, ce phénomène pernicieux fait craindre la fin de la liberté d'expression qui est le socle de notre société démocratique. Nous, acteurs culturels, refusons cette normalisation. Nous rappelons que la création artistique, par la force de ses imaginaires, est à vocation émancipatrice. Nous rappelons que le hip-hop et le rap sont nés de l'injustice, de l'exclusion, de la colère face à des systèmes oppressifs. Ils sont, comme d'autres formes artistiques avant eux, provocateurs, contestataires, mais aussi nécessaires et puissamment fédérateurs. On l'a encore vu la semaine dernière, au week-end des 15 ans de Radio Campus. Brassens, Renaud, NTM, Baudelaire, Jean Genet ont tous été censurés en leur temps. La perte de cette subvention constitue un coup dur pour Mixar. Elle frappe une association qui œuvre, avec des moyens limités, à faire vivre la culture en milieu rural et montagnard en Isère. Une structure déjà économiquement fragile, qui s'efforce de tisser du lien social, d'animer des territoires, de rendre la création accessible à toutes et tous. Ces financements permettent en effet de mener des actions culturelles de proximité, dans les écoles, les centres de loisirs, auprès des habitants. Ils garantissent l'accès libre à une programmation en journée faite de spectacles, débats, ateliers, moments de réflexion collective, mais aussi à mettre en place des actions en faveur de la transition écologique et de la sensibilisation sur les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Cette décision pénalise un territoire, ses habitants, un festival, une association et la vitalité démocratique de notre société. Aussi, nous, co-signataires de cette lettre ouverte, invitons Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Isère et ses élus à échanger avec Mixart sur les motifs de cette décision. Vous pouvez retrouver cette lettre ouverte et apporter votre soutien au festival et à l'association sur le site mixart.org.
Merci Emmanuel pour ta chronique. Merci Aline pour la technique. Et voilà, c'est déjà la fin d'InfoClub Sandwich. On se quitte sur la musique Media Training de Medine. Merci de nous avoir écoutés et à lundi sur Radio Campus Amiens.
Nos ancêtres étaient dans les tranchées en première position. Moi je veux être dans la dernière tranche d'imposition. Nique le diplôme hip-hop, c'est nous qui faisons la leçon. Qui prétend vraiment perdre une carte sans faire opposition. Je parle la langue de Molière, ils comprennent la langue des Mollas. C'est l'hôpital, la salpêtrière qui se fout de la charia. Analyse, ils disent que le français j'analyse. Pourtant je pourrais même baquer l'hymne belge si ces dames sont à la lead. Au karaoké chante la vie en pink de Nakamura. Et j'oublie jamais de peindre en dehors du cadre mural. J'ai tous les packs et tout installé. Je veux vraiment pas blaguer cette année. Je suis pas au sol, j'ai un bon sol comme un lutteur d'Aguestané. Ils sont par terre comme le leader de Debout la France. Tu sais c'est qui l'auteur de Bambou Lachant? Un sénateur LR, auteur de l'attaque sur le stream. T'ajouteras ça au doc d'M6, jamais sorti sur la triche. J'ai le pressing comme l'appli qui trace le jet des ultra riches. Le rap à manteau de pauvre qu'on pose sur des épaules de riches. Rime riche, comme dirait le comte de Bouderbala. Je suis fils de Bougnoul comme Bouder et Jordan Bardella. Je suis un filtre des Hadjing, son Notorious B.I.G. Toi va jouer la dépressive en écoutant Billie Eilish. Ils m'ont dit Medine, t'es plus média friendly. Alors je donne des cours de média training. Alors coach de média training. Quelqu'un veut connaître ma définition d'une clique. C'est que ça bouge quand y'a embrouille. Que tout le monde porte ses couilles quand ça douille. On t'attend plus comme l'album de la ligue. On s'est trop pris pour Ice Cube, pour Dr. Dre ou pour Snoop. C'est le detox de Carrefour. De toute façon le rap ça a trop changé. C'est des gens friqués qui écoutent des ex fauchés se gentrifier. De gentils gars genre gendre idéal. Ça leur fait croire le temps d'un son qui partage notre itinéraire social. Ils viennent diguer nos idées puis disent qu'ils les ont décidées. La seule fois qu'ils sont venus au Tchèque c'est pour la dictée des cités. Que des bougues distingués s'ils s'exhibaient comme Louis C.K. Ça se dissiperait, un racisé on l'aurait déjà décimé. Croyez que les médias c'était comme le port, salut c'est écrit dessus. Mais y'a pas beaucoup de rock chez Skyrock, ni de gens du Sud, chez Radio Sud. Chez France Info, y'a deux mensonges dans leur nom. Quand je dis que je viens du Havre, c'est qu'on me classe dans la musique du monde. Pour eux, je suis qu'un polémiste. Si j'ai des jumeaux un jour, rien que pour les faire chier, je les appelle polémiques. Cherche pas de dog whistle dans mon rap de niche. Y'a qu'à ma circoncision qu'on a séparé l'homme de l'artiste. Hey, trigger warning, made in en trending. Quand t'es en apnée dans une sauce, moi je suis en apnée. Je suis reconverti en media training. Master en gestion de crise déposé à l'INPI. Pour vos colors, pour vos grunts, pour vos JQ, pour vos codes. Pour vos Arte dans le club, on unplug.
Media training.
Pour vos tracks, pour vos yards. Pour vos semaines, planète rap. Pour vos lives, pour vos flammes, pour vos primes.
Media training.
Pour vos bousca vidéo. Pour vos promos, pour vos talks. Pour vos clics, pour vos bruts, pour vos calls.
Media training.
Pour vos interviews fleuves, chez Fanzine ou chez Vogue. Au micro, Louis au sol, pour vos Forbes.
Media training.
Pour vos visios, pour vos phoneurs. Pour vos podcasts chez Driver. Pour vos ABCDR face à Splinter.
Media training.
Face à moi.